Vous vous profitez de votre
15e cours.
Pour leur intérêt propre, mais nous serons assez rapides. Donc, les chapitres 10, 11 et 12 forment comme un certain tout assez particulier, qui est justement l'étude des parties du tout. Le chapitre 10 donne la définition du tout en se demandant justement dans quelle mesure il contient celle des parties. Alors vous voyez que nous sommes là de nouveau. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit précédemment à propos des chapitres 7, 8 et 9, nous avions vu que le logico est déterminé, la perspective de l'intelligibilité est déterminée, et que nous retournions vers le point de vue du logico. Et ici, au contraire, on va de nouveau retourner vers le point de vue de la définition. Alors on peut dire évidemment que d'une certaine manière, il y a un retour vers le point de vue de la définition après être revenu sur le point de vue du logico. Ou est-ce que de fait, ces chapitres auraient mieux été ordonnés après les autres, et qu'il y a comme là une coupure particulière des chapitres 7, 8 et 9. On peut discuter sans s'étendre là-dessus. Mais je crois qu'on ne pourra jamais donner de solution. Il suffit de constater que de fait, il y a là un problème qui se pose. Ce n'est pas si commode que ça de voir direct la continuité et ça. Alors je n'entrerai pas trop dans ce problème-là. Essayons de regarder l'importance et l'intérêt de ces chapitres 10, 11 et 12, qui sont donc des chapitres sur la définition et sur les parties de la définition. Et alors, d'une certaine manière, nous retrouvons ici une perspective très nette de l'importance du totiella. Donc, nous retrouvons le point de vue de la fluidité. Alors que le point de vue de la fluidité avait été justement abandonné dans les trois chapitres précédents, où on avait regardé que le point de vue de l'exode. C'est pour ça que ça ferait comprendre assez bien que ces chapitres 10, 11 et 12, d'une certaine manière, devraient être en continuité avec les chapitres sur la cuisine. J'indique là un petit problème intéressant, mais dont on ne peut pas donner de solution. On ne va pas. Il y a toujours des hypothèses qu'on pourra donner. Donc, les chapitres 10 et 11 et 12 que nous allons voir maintenant. 13, de la définition et des parties de la définition. Ils apparaissent comme une étude n'ayant qu'un rapport indirect avec les chapitres précédents, surtout ceux qui sont immédiatement précédents, et se rattachant beaucoup plus avec les autres. Aristote, du reste, semble reconnaître, puisqu'il commence son chapitre 13 de cette manière, mais puisque notre recherche concerne la substance, revenons à notre sujet. Donc vous voyez, on voit bien que d'une certaine manière, il a considéré qu'il y avait là quelque chose d'un peu particulier. Et si vous regardez la manière dont Aristote recommence le chapitre 10, il dit ceci, l'orithmos, la définition, étant un logos, et tout logos a des parties, et le logos est protopragma. Nous retrouvons le tropragma qu'on n'a pas vu jusque maintenant. Tropragma, c'est la réalité. Comme tout logos est vers le pragma, et comme les parties du logos sont égales par rapport aux parties de la réalité. La question se pose dès lors de savoir si le logos des parties doit être ou non présent dans le logos du tout. Vous voyez, c'est un problème beaucoup plus de logique et de ce que représente la définition. Comment avoir une bonne définition? Est-ce que les parties font partie de la définition? Mais comme la définition a été utilisée pour bien déterminer le totier Neumann, par là nous comprenons comment ces chapitres 10, 11 et 12 ne sont pas étrangers à la substance, parce qu'il regarde le totier de Neumann. Et dans la mesure où le totier de Neumann intéresse la substance, ces chapitres qui intéressent le point de vue de la fluidité intéressent donc la substance. Donc vous voyez, c'est un peu intéressant. Hein? C'est comme si Aristote s'intéressait particulièrement à la question de la partie et du tout, au point de vue de la définition. Il y a là, évidemment, je crois, un souci historique par rapport aux sophistes d'une part, par rapport aux pythagoriciens d'autre part, et par rapport à Platon, ou plus exactement par rapport aux partisans des idées, si vous employez l'expression d'Aristote. Je ne dis pas Platon, mais je dis les partisans des idées, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Platon. Alors il y a très nettement là un souci en face des sophistes de savoir exactement ce que c'est que la définition. Au fond, les sophistes mêlés au point de vue de la partie du tout. Et donc c'est un souci de voir que la définition est importante pour nous à saisir exactement Voir exactement ce que signifie la définition est important pour nous pour saisir le dossier des mâles et par là pour saisir la substance. Je reviendrai tout à l'heure à cette question du chapitre sur les pythagoriciens et les platoniciens. Il y a quelque chose d'intéressant à voir. Donc, voyez bien, nous commençons le chapitre 10 et 11. Cependant, si la signification de ce livre Zeta est de préciser le TSI de la substance, sachant quel est l'être premier considéré selon la connaissance et premier second considéré selon la nature, on comprend l'intérêt de ces chapitres qui nous montrent comment certaines parties, celles qui proviennent de la forme, sont antérieures au tout. Aristote est toujours conduit par le point de vue de saisir où il y a des premiers. Vous voyez, vous pourriez dire que le livre Zeta, c'est la chasse des premiers. N'est-ce pas ? Nous essayons de saisir partout où il y a premier. Et partout où il y a premier, on essaie de comparer ce premier au premier qui est la substance dans l'ordre de l'être. Or, justement, il y a ce fait tout à fait spécial, c'est que il y a des parties qui sont antérieures au tout, et il y a des parties qui sont secondaires au tout. Si le tout est composé de parties, alors à ce moment-là, nécessairement, les parties sont postérieures au tout, et le tout est antérieur au tout. Mais il peut y avoir des parties qui sont antérieures au tout, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du tout. Et donc, il peut y avoir des parties qui ont une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité. Si ces parties ont une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, il faut donc se demander si la substance n'est pas une de ces parties. Donc, vous voyez bien, c'est toujours le même souci. Je crois que c'est vraiment ça qui commence le livre Zeta. Au moins, moi, ça m'aide énormément à comprendre l'unité du livre Zeta. C'est de comprendre qu'Aristote est à la recherche des premiers. C'est partout où il y a possibilité de découvrir un premier, on voit le parallélisme avec le point de vue du livre Zeta. Vous voyez, faites vous-même ce petit tableau facile à faire et qui nous aide beaucoup à comprendre l'unité du livre Zeta. Cherchez tous les premiers. Premier dans l'ordre logique, premier dans l'ordre du devenir, premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Bon, alors vous voyez, à partir de là, et bien nous verrons encore tout à l'heure, après, le premier dans l'ordre de l'être de raison. Donc nous saisissons tous les premiers et nous essayons de comprendre que la substance ne se ramène pas, le qui-est-il de la substance ne se ramène pas à ce premier. Donc, je reprends. Si la signification du livre Zeta est de préciser le qui-est-il de la substance, sachant qu'elle est l'être premier, premier considéré selon la connaissance, on comprend l'intérêt de ces chapitres qui nous montrent comment certaines parties, celles qui proviennent de la forme, sont antérieures au tout. Comment le tout est antérieur à d'autres parties, ce sont les parties matérielles. Aristote nous dit que le mot partie se dit de multiples manières. Le mot partie ne doit pas s'entendre d'une seule façon. Parce qu'il y a des parties qui proviennent de la forme, c'est-à-dire des parties formelles, si vous voulez, mais ça ne va pas très bien dire des parties formelles. C'est des parties qui proviennent de la forme, des parties qui sont formes, si vous voulez. Et puis il y a des parties qui proviennent de la matière, de la quantité. La partie provient en premier lieu de la quantité. Le mot partie est lié à la quantité, comme le mot tout est lié à la quantité. Mais il faudrait faire cette petite étude dont Aristote, des parties et des tout. Ici, c'est présupposé. Il y a toute une étude qu'on pourrait faire dans Aristote à propos de la partie du tout, qui serait intéressante à faire. Parce que le point de vue tout est partie est en premier lieu dans l'ordre de la quantité. Si c'est en premier lieu dans la quantité, on comprend comment le point de vue de la partie doit être saisi en premier lieu du côté de la quantité. Alors là, nous sommes en face d'une partie matérielle. Donc, comment le tout est antérieur à d'autres parties, les parties matérielles, ce qui par le fait même manifeste d'une part que la substance, en ce qu'elle a de plus propre, ne peut s'identifier au tout, car elle ne serait plus ce qu'il y a de premier. Nous ne pouvons pas concevoir la substance comme un tout. Concevoir la substance comme un tout serait nécessairement concevoir la substance comme impliquant des parties. Or, il y a certaines parties qui peuvent être antérieures au tout. Donc la substance ne serait plus première. Donc ceci, c'est important. On ne peut pas concevoir la substance comme un tout. Non, et je crois que dans la perspective d'Aristote, il y a ça, d'évacuer cette espèce d'imagination que nous avons toujours, de considérer que la substance est comme une synthèse, c'est-à-dire comme un tout. Toute synthèse est comme un tout. Car elle ne serait plus donc ce qu'il y a de premier. Et d'autre part, que la substance ne peut s'identifier aux parties matérielles qui sont postérieures au tout, c'est évident. Donc, elle ne peut s'identifier qu'aux parties qui viennent de la forme. Mais alors, elle devra s'identifier à la différence de la différence, diaphore. Les parties qui viennent de la forme, c'est les parties qui impliquent différence de la différence. C'est pas la différence spécifique, mais c'est très proche de la différence spécifique. C'est ce que représente la différence spécifique. Est-ce que la différence spécifique nous fait connaître la substance? Il n'y a pas des liens, hein. Faut pas l'oublier. Parce qu'au fond, la différence spécifique, nous savons très bien que c'est imprédicable et que la différence spécifique indique justement ce qu'est la différence, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus qualitatif dans un être. Est-ce que la substance doit se prendre du côté de ce qu'il y a de plus qualitatif dans un être? Si la substance se prenait de ce qu'il y a de plus qualitatif dans un être, la substance devrait s'identifier à la différence de la différence. Puisque la différence de la différence nous montre l'aspect ultime de la qualité. Alors voyez comment on pourrait identifier substance et qualité. Si on identifie être et qualité, on identifie la substance et qualité. Alors, je crois qu'il y a tout ça qui sous-jacent. Encore une fois, c'est assez multiple et pas explicite. C'est au fond une étude assez logique d'une certaine manière. Donc, elle ne peut s'identifier aux parties qui viennent de la forme, mais alors elle devra s'identifier à la différence de la différence, diaphora, car ces parties qui peuvent être multiples n'ont d'unité que grâce à la différence. Celle-ci seule compte. Elle est vraiment la forme au sens fort, et donc la substance. Voyez ce qui est dit, justement, au chapitre 11, 38a, 25. Oui, je vais vraiment montrer comment la différence de la différence, c'est l'eidos. Donc, c'est la forme par excellence. Si la substance s'identifie à la forme, elle devra donc s'identifier à la différence de la différence. Et donc à la forme. La définition du reste est la notion qui résulte des différences. Et avant tout, la dernière. Donc, la différence possède bien cette antériorité sur la connaissance qui caractérise la substance. La diaphora, ce qui est exprimé par la différence spécifique, possède bien une certaine antériorité au point de vue de la connaissance. La qualité est ce que nous connaissons en premier lieu. La qualité possède une intelligibilité tout à fait première, puisque c'est par la qualité que nous atteignons le reste. Et donc, si de fait la différence c'est la qualité par excellence, on voit bien comment il y a une proximité entre le point de vue de la substance et la diaphore, entre la substance et la différence spécifique. Donc, la différence possède bien cette antériorité selon la connaissance qui caractérise la substance. Il faut donc considérer la substance avant tout comme la forme la plus qualitative, la différence de la différence. Alors, devons-nous identifier diaphora et substance? Il y a quelque chose de commun entre les deux. Il y a quelque chose qui fait que les deux sont très proches. Aristote ne conclut pas explicitement sa recherche. Ces chapitres n'impliquent pas une conclusion très explicite. Mais je crois qu'il est facile de comprendre la signification de ces chapitres si on regarde justement l'intention profonde du livre Zeta. Il est facile d'expliciter. Si la substance s'identifie à la forme, partie de la définition, donc si elle s'identifie à la différence de la différence, à la diaphore, elle doit s'identifier avant tout à la forme dans son rôle le plus formel, la différence de la différence. Seule celle-ci est aidante au sens le plus fort. Donc dans l'ordre de la forme, nous devons aller toujours plus loin, et la forme la plus forme, c'est la différence de la différence. Mais la différence de la différence ne s'exprime-t-elle pas comme une détermination relative qualitative? Alors, c'est là où on voit qu'on ne peut pas l'identifier à la substance. Si vous pensez la différence de la différence, en voyant le point de vue justement de la différence spécifique, vous êtes amené à penser une détermination relative. Toujours, la différence de la différence est relative à autre chose. Elle qualifie autre chose, c'est une qualité. Donc elle est relative qualitativement à autre chose. Ce n'est donc plus un être absolu. Ce n'est donc plus un taux d'étude. Il y a un ordre parmi les différences, or il n'y a pas d'ordre dans la substance. La substance est un absolu. vous voyez, deux raisons qu'Aristote touche pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas identifier la différence de la différence qui est l'ultime moment de la forme avec le point de vue de la substance. Parce que la différence de la différence est relative, elle est qualitative. Donc elle est relative à autre chose. Donc elle n'est pas introductive. D'autre part, nous pouvons dire que parmi les différences, il y a un certain ordre, et du plus et du moins. Donc elle n'est pas substance, puisque la substance n'implique pas cet ordre. Donc identifier substance et forme aboutit à une antinomie, aboutit à une impasse, puisque la forme par excellence, c'est la différence. Autrement dit, du point de vue de la connaissance, il faut reconnaître une très grande parenté entre la forme et la substance. L'une et l'autre ont une priorité. La forme est première selon la connaissance à l'égard de tout ce que représente la définition. C'est la différence de la différence qui donne l'unité à la définition. C'est par elle que la définition existe. Il semble bien pourtant que la substance possède un autre type de priorité, car ce n'est plus à l'égard de la définition qu'il faut saisir cette priorité, mais à l'égard de ce qui est. Confondre ces deux priorités, la priorité de la forme et la priorité de la substance, ramènerait nécessairement la substance à la différence de la différence. Oui, je crois que c'est l'essentiel de ces trois chapitres. Alors vous voyez que d'une certaine manière, il y a une continuité avec tout ce qui avait été dit avant. C'est comme pousser à l'extrême. Si vous identifiez substance et forme, si vous voulez aller jusqu'au bout de l'identification de la substance et la forme, vous irez nécessairement à la formule. La formule fine, c'est la différence de la différence. À ce moment-là, vous comprendrez bien le point de vue de la priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, mais vous ne comprendrez plus la priorité dans l'ordre de l'être. De sorte que si on comprend ça, on voit bien que ces derniers chapitres, c'est comme une croix par rotation, si vous voulez. Identifier la substance et le point de vue de la forme aboutirait nécessairement à cette conclusion de faire de la substance une qualité. Alors vous voyez, si nous essayons de comprendre un petit peu tous ces aspects que nous avons vus précédemment, étant donné que nous avons vu que le problème de l'eidos et de la substance, Aristote avait dit, c'était le problème le plus difficile. Il l'a dit. Alors, ces derniers chapitres sont le dernier moment. Après, nous passons vers autre chose. Pas? Donc, c'est vraiment le dernier moment. Alors, nous avions vu que si on identifie substance et sujet, on aboutit à identifier substance et matière. Si on identifie substance et forme, on aboutit à identifier la substance et la qualité. Oui, je crois que c'est les deux grands aspects que nous avons vus jusque maintenant. Mais si on identifie substance, si le qui est-il de la substance revient au qui est-il du sujet, on identifiera substance et matière. Parce que le sujet radical et fondamental, c'est la matière. Si on identifie substance et forme, qu'est-ce qu'on aboutira à faire? Quelle est la forme de la forme? C'est la différence ici, la diaphorose. Donc la différence de la différence. La différence de la différence, c'est toujours l'aspect ultime de la forme. Or, la différence de la différence est une qualité. C'est bien quelque chose de premier dans l'ordre de l'intelligibilité, comme la matière est bien première dans l'ordre du venir. Donc on reconnaît la priorité de la matière dans l'ordre du venir, on reconnaît la priorité du sujet dans l'ordre de l'attribution, au point de vue logique. Donc on voit bien cette priorité-là, et on reconnaît bien que la forme, différente de la différence, c'est une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, mais cette priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est que cette forme de la forme, c'est une qualité. Alors, si vous identifiez substance et forme, et que vous devez toujours aller jusqu'à l'ultime dans le point de vue de la substance, puisque c'est quelque chose de premier, vous aboutissez nécessairement à identifier substance et qualité. Oui, là, je crois qu'il y a deux impasses qu'Aristote nous montre. On ne peut pas identifier la substance et le sujet parce qu'on aboutit à identifier substance et matière, et on ne peut pas identifier substance et forme parce qu'on aboutirait alors à la destruction même de la substance. On fait de la substance quelque chose dans qualité. Or, justement, la qualité est ce qui est relatif à autre chose. Donc la substance ne peut pas s'en faire. C'est pour ça que si vous regardez de cette manière, hein, Si vous regardez de cette manière ces chapitres, vous voyez bien que ces chapitres ont bien quelque chose d'utile par rapport à ce qui a été dit avant. Ce qui a été dit avant, on a dit que pour bien voir la différence qui existe entre la substance et la forme, on a regardé le taux des vies. Et on a été voir la différence qui existe entre la substance et le taux des vies. Puis on a regardé l'exode au niveau physique. Et ici, maintenant, on regarde l'exode au niveau intelligibilité. Vous voyez, c'est-à-dire au point de vue de la connaissance. Alors, d'une certaine manière, on pourrait résumer toute cette étude d'Aristote sur le... Première considération, la considération logico. Alors, nous avons la considération du Toti, M. Einar. Ça, nous nous rappelons bien cette considération particulièrement difficile. Une seconde considération de l'Eidos au niveau du devenir. C'est dans l'ordre du devenir que nous saisissons la naissance de l'Eidos. L'Eidos est saisi à partir du devenir. Et le devenir proprement artistique nous montre l'importance de l'Eidos comme principe. Comme principe, donc, comme quelque chose de premier. Elle est première dans l'ordre du devenir, d'une certaine manière. Ce n'est pas une priorité absolue, mais c'est une priorité dans l'ordre de la détermination. Troisièmement, l'Eidos, on l'a saisi dans ce qu'elle a d'ultime, l'aspect ultime de l'Eidos du côté de la connaissance. Ça rejoint d'une certaine manière le logico, mais ce n'est pas tout à fait le logico, c'est du côté connaissance. L'Eidos joue un rôle tout à fait particulier du côté de la connaissance, parce que c'est justement la connaissance ultime. La connaissance ultime, c'est la différence de la différence. Vous voyez ? Donc il y a bien un certain ordre, hein. Alors, à première vue, ces chapitres semblent s'ajouter, et si on regarde attentivement, on voit bien qu'il y a trois considérations successives sur l'Eidos. Et là, à ce moment-là, ça devient très, très fort. Trois considérations successives sur l'Eidos. Vous pouvez regarder l'Eidos dans sa fonction. Je dirais ça, c'est l'Eidos dans sa fonction. Dans sa fonction spirituelle. Vous regardez l'Eidos dans sa naissance à l'égard du devenir. Vous regardez l'Eidos dans son aspect ultime, au point de vue connaissance. C'est l'Eidos qui nous permet d'atteindre la définition. C'est par l'Eidos que j'atteins la définition. Toute définition acquiert son unité quand j'atteins la différence de la différence. C'est-à-dire ce qu'on appelle la différence spécifique. C'est quand j'atteins la différence de la différence que vraiment j'atteins ce qui est ultime dans la connaissance, dans la définition. Alors à ce moment-là, je vois le rôle de l'Eidos par rapport à la définition, par rapport à la connaissance, c'est-à-dire une connaissance parfaite. L'Eidos joue ce rôle-là. Alors, si l'Eidos joue ce rôle-là dans la connaissance, on voit très bien comment il serait si facile d'identifier substance et Eidos. Et cependant, on ne peut pas l'identifier parce que si j'identifie Eidos, différence ultime avec la substance, je j'oublie que la substance est le taux d'ici, c'est-à-dire quelque chose d'absolu. Alors, on voit très bien, hein, ça c'est normal, qu'Aristote nous avait prévenu que c'est particulièrement difficile de dépasser l'exode. C'est ce qu'Aristote nous montre. Hein. C'est le dépassement de l'exode. Il s'agit de relativiser l'exode. Au niveau de la philosophie de la nature, l'exode est un absolu. Au niveau de l'art, l'exode est un absolu. Il y en a deux d'absolus deux domaines dans lesquels l'exode est absolu. Au niveau de la philosophie de la nature, l'exode, la forme, est quelque chose d'absolu, puisque je connais la matière relativement à la forme. Au niveau artistique, l'exode aussi est quelque chose d'absolu. Au niveau de la définition, l'exode est aussi quelque chose d'absolu. Trois domaines dans lesquels l'exode est quelque chose d'absolu. Et il faut cependant relativiser l'exode pour saisir ce que c'est que la substance relativement à l'être. Donc c'est énorme, on prend en face de Platon, en plus de ça, parce que Platon avait fait l'exode quelque chose d'absolu au niveau de l'intelligibilité à ces niveaux-là. Alors Aristote ne prend pas le point de vue de Platon, il le critique, mais il prend dans sa propre perspective les trois domaines où nous trouvons l'exode. Et par là, il montre comment nous pouvons relativiser l'exode, bien qu'en montrant que la substance est très proche de l'exode. Donc vous voyez, là, il y a un effort très grand. Et important. Je crois qu'on peut le ponctuer de cette manière-là. Encore une fois, c'est assez difficile. J'explique maintenant ça. J'interprète. Voyez au chapitre 11 un lieu qui est particulièrement important pour ceux qui s'intéressent à l'analyse du livre Zeta. Je crois qu'il y a deux lieux à regarder spécialement. 1037A. D'où des suivants. 1037A, d'où des suivants, je vous lis. Nous examinerons ce point plus tard, car c'est en vue de cette investigation que nous nous efforçons de définir aussi la nature des substances sensibles, substances sensibles dont l'étude est cependant en un sens plutôt l'œuvre de la physique. Nous, à cause du séminaire, nous étions demandé le problème la fois dernière des rapports entre les chapitres précédents et la physique. Et c'est pour ça que je cite ce passage-là. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours de voir les rapports entre la physique et la métaphysique. Alors là, il y a une affirmation d'Aristote intéressante à souligner. Donc, nous nous efforçons de définir aussi la nature des substances sensibles dont l'étude est cependant, en un sens, plutôt l'œuvre de la physique, c'est-à-dire de la philosophie seconde. Enfin, de temps en temps, Aristote appelle la physique la philosophie seconde, c'est assez rare. Voilà. Il appelle la philosophie première, c'est la métaphysique, que nous appelons métaphysique. Enfin, et la physique, la philosophie de la nature, c'est la philosophie seconde. C'est intéressant de voir quand il est en philosophie de la nature, il dit que c'est la philosophie seconde. Enfin, alors que quand il commence la physique, il dit que c'est justement le premier pour une fois de l'autre. Alors que là, il appelle comme philosophie seconde. Puisque ce n'est pas seulement sur la matière que doit rouler la connaissance. Rouler, ça c'est tout à fait rouler la connaissance du physicien, mais aussi et même de préférence sur la substance exprimée dans la définition. Vous voyez ? Alors au fond, il montre là comment la définition des substances sensibles, évidemment, relève de la physique. Comme définition des substances sensibles. Mais ici, son but n'est pas de définir les substances sensibles, c'est de montrer comment, dans la définition des substances sensibles, intervient la différence de la différence, et donc intervient la forme, et comment, si nous identifions cette forme avec la substance, nous tombons dans un aspect relatif. Et regardez également, dans ce même chapitre 11, quelque chose qui serait aussi important et intéressant à voir, donc 1036A21, et suivant, et surtout 29. Où Aristote montre il n'y a de définition que de l'universel et de l'aïdos. Il n'y a de définition que de l'universel et de l'aïdos. Si la forme est forme de matière très diverse, les matières sont extérieures et ne font pas partie de la définition de la forme. L'aïdos peut être alors séparé de la matière. Alors Aristote se pose la question, nous pouvons séparer la forme du cercle de la matière d'airain ou de la matière de bois. Quand je définis le cercle, la définition qui porte sur la forme du cercle ne comporte pas l'airain. Je ne définis pas le cercle par l'airain. Et pourtant il existe un cercle d'airain. Comment se fait-il que quand je définis l'homme, la matière fasse partie de la définition de l'homme? Alors, si la forme d'homme pouvait exister dans des matières différentes, on voit très bien passer l'allusion à Platon, n'est-ce pas? Le corps d'airain, le corps d'or, le corps d'argent, n'oublions pas dans la République. Alors, on voit très bien qu'Aristote a poussé là sur le méchant contre Platon. Si donc l'homme peut exister de fait dans l'or, l'argent et le bronze, comme le cerf peut exister comme l'or, l'argent et le bronze, dans la définition de l'homme, n'intervient pas la matière. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant à souligner, parce que nous voyons bien le parallèle qui se fait entre la définition d'une forme mathématique, le cercle, et la définition d'une réalité physique. Si donc nous regardons le monde tel que nous le voyons autour de nous, le monde physique, dans une perspective mathématique, la matière ne fait pas partie de ces définitions, comme Platon l'a regardé. Platon a regardé le monde d'une manière trop mathématique. Et par le fait même, la forme de l'homme définit l'homme. Et ce n'est pas le corps ne fait pas partie de la définition de l'homme. Exactement comme lorsque vous regardez le cercle et que vous définissez le cercle. Les reins ne font pas partie du cercle. C'est simplement une application. Pourquoi le corps fait-il partie de la forme de l'homme? Si l'homme pouvait exister dans des matières différentes, l'or, l'argent et le bronze, vous diriez que la forme de l'homme ne n'implique pas la matière. Alors voyez, là, il se pose toute une question extrêmement intéressante, c'est la question de l'abstraction. Alors il se la pose de façon très très profonde ici, hein. C'est un des lieux où de fait nous voyons mieux. L'abstraction, Aristote ne l'a jamais fait explicitement. Il la traite toujours comme ça, par mode de boutade. C'est intéressant. L'abstraction mathématique n'est pas la même que l'abstraction physique. Dans l'abstraction mathématique, la matière n'est pas impliquée dans la définition. Enfin, pour bien voir ce que représente une abstraction, regardez les définitions. Puisque les définitions sont le fruit de la connaissance. Donc quand vous regardez les définitions mathématiques, quand vous regardez la définition du cercle, l'airain n'est pas impliqué dedans. Quand vous regardez la définition de l'homme, vous voyez que le corps est impliqué dedans. Alors, on doit se poser la question, jusqu'où va l'abstraction? Ce que les pythagoriciens et les partisans des idées n'ont pas vu d'une manière suffisamment précise. Et c'est à partir de là qu'Aristote arrive à 1037a à nous dire qu'il y a deux matières différentes, la matière sensible et la matière intelligible. Alors, il faut toujours se rappeler ce lieu, parce que c'est un lieu important, et qu'Aristote le donne à partir de la définition. C'est à partir de la définition qu'Aristote nous fait comprendre ce qu'est la matière intelligible et la matière sensible. La matière sensible, c'est comme le corps. La matière intelligible, c'est au fond le divisible, qui est impliqué dans une définition mathématique. Dans une définition mathématique, n'est pas impliqué la matière sensible, le corps physique qui est nu, mais impliqué uniquement le divin. Et donc la matière intelligible pour lui, c'est celle qui est impliquée dans le point de vue de la définition mathématique. Et alors au fond, le reproche qu'il fait aux pythagoriciens et aux partisans des idées ici, c'est de ne pas avoir vu avec suffisamment de netteté la différence de l'abstraction mathématique et de la connaissance proprement physique. Et moi, ça, c'est un aspect très important de critique qu'il donne. Parce que c'est une réflexion sur ce que représentent justement ces deux types d'abstraction. Et le chapitre 12 revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, l'unité même de la définition, et c'est là où il montre que la définition implique le point de vue de la diaphora. Donc je n'insiste pas plus, vous voyez, nous terminons un grand aspect, le plus difficile du livre d'État. Ceux qui veulent vraiment attaquer le livre d'État, c'est vraiment tous ces chapitres sur la substance et l'état. Maintenant, nous allons sur quelque chose d'extrêmement facile, nous pouvons aller très vite. C'est très très facile, le chapitre 13 et les chapitres suivants vont nous montrer que la substance ne peut pas s'identifier à l'universel. C'est beaucoup plus facile. On a l'impression que c'est presque un appendice. C'est peut-être pas absolument nécessaire de le dire. J'étais déjà impliqué dedans. Mais il le donne. Il le donne en fonction des secrets. C'est très nettement en fonction des secrets. Après avoir montré d'une part, comment la substance peut être considérée comme sujet, bien qu'on ne doive pas identifier le qui est qui, la substance et du sujet, mais que la substance implique la fonction de sujet. D'autre part, comment elle peut être considérée comme quidité et comme forme, parce que la quidité et la forme nous donnent ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'intelligibilité, et que la substance est première dans l'ordre de l'intelligibilité et de la connaissance. Bien qu'il Cependant, il ne faut pas identifier le qui est-il de la substance et la quidité et la forme. Aristote examine les rapports qui peuvent exister entre l'universel et la substance. Alors vous voyez là encore comment il peut y avoir des confusions, parce que l'universel, c'est ce qu'il y a de premier dans l'être de raison. L'universel, c'est ce qu'il y a de premier dans l'être de raison. Alors au début de ce chapitre 13, Aristote affirme, il paraît bien aussi que pour certains, l'universel soit principalement cause et soit aussi principe. Alors, il ne dit pas qui, mais je crois que c'est les sophistes. C'est vraiment les sophistes avec la confusion du logique et du métaphysique. Bon, alors, en fond, on voit bien. C'est pas Platon. Platon n'a jamais été dit cette confusion-là, au sens fort. Bien que peut-être certains partisans des idées ont fait cette confusion. Ça, on verra ça un peu plus loin que de fait Aristote a l'air de le dire. Or, si l'universel est principe, donc certains disent que l'universel est principe et cause. Si l'universel est principe et cause, on voit bien comment il peut y avoir une parenté entre l'universel et le point de vue de la substance. Or, si l'universel est principe, il est premier, donc il est substance. ou du moins apparentée à la substance. Dans cette étude sur l'universel et la substance, Aristote souligne quatre irréductibilités entre le point de vue de l'universel et entre le point de vue de la substance. Donc c'est très intéressant pour savoir ce qu'il entend par l'universel. C'est un lieu très important, parce que c'est une vision métaphysique sur l'universel. Alors comme c'est une vision métaphysique sur l'universel, c'est particulièrement intéressant. Aristote ne traite jamais de l'universel en lui-même. Hein. C'est le seul lieu où l'on reste. Donc pour ceux qui s'intéressent à la logique d'Aristote, c'est très intéressant. Parce que c'est une étude réflexive sur l'universel. Alors que dans les catégories, dans le Verrier-Meyrias et dans les analytiques, Aristote se sert de l'universel, il s'en sert constamment, mais il ne réfléchit pas sur proprement le point de vue de l'universel comparativement à l'être. Alors ici, il y a nettement une distinction très forte qu'Aristote nous montre entre le point de vue de l'universel et le point de vue de la substance. Il semble impossible, déclare-t-il, que soit substance l'un quelconque des universaux. 1038b9. Premièrement, la substance de chacun, celle qui est propre à chacun, est celle qui n'appartient pas à un autre. C'est ce qui nous est tout à fait propre, notre substance. C'est vraiment ce que nous sommes. Ce que nous sommes nous-mêmes. Ça, la substance fonde le principe d'identité, vous voyez bien. Ça, la substance de chacun, celle qui est propre à chacun, c'est ça que ça. La substance de chacun, celle qui est propre à chacun, est celle qui n'appartient pas à un autre. L'universel est commun. Commun. L'universel, c'est ce qui appartient à un autre. C'est ce qui m'appartient, c'est ce qui appartient à un autre. Puisque c'est ce qui fait la communauté. Donc, 1038b. Voilà la première irréductibilité entre l'universel et la substance. La substance est chose propre, justement, la substance est propre à chacun. L'universel est nécessairement commun à plusieurs. Cette opposition se comprend en raison même de la nature de l'universel. On dit universel ce qui se trouve par nature appartenir à plusieurs. C'est la définition qu'Aristote donne ici de l'universel. Donc l'universel, c'est ce qui se trouve par nature appartenir à plusieurs. Par le fait même, si l'universel est substance, de quoi sera-t-il substance? Il le sera de tous ou d'aucun. Or, il ne peut l'être de tous, car il faudrait alors que tous soient identiques, puisque les êtres dont la substance est une, ainsi que leur cuivité, sont eux-mêmes un. Donc, il n'est substance d'aucune réalité. Donc, voyez là, on voit l'irréductibilité en premier. Si la substance et l'universel sont un, alors nous allons aller à l'infini. Vous voyez, parce que la substance est attribuée alors. Et alors, elle est attribuée à chacun. Donc chacun ne prend pas sa propre substance. Vous voyez, donc on ira toujours plus loin. Donc on voit très bien cette première irréductibilité entre le point de vue de la substance et le point de vue de l'universel. L'universel est commun, la substance est ce que chacun est. Deuxième irréductibilité, la substance est ce qui n'est pas dit d'un sujet. L'universel se dit toujours d'un sujet. Donc, on a vu que la substance ne peut pas se dire d'un sujet. C'est ce qu'Aristote a dit dans les catégories. Hein. Et Aristote a dit aussi au niveau de l'état, puisque nous avons vu la parenté entre le point de vue de la substance et du sujet. 1038b15-16. Alors on voit cette irréductibilité. L'universel est totalement relatif à un sujet. La substance, au contraire, c'est ce qui n'est pas dit d'un sujet. Troisième irréductibilité. Il est impossible et absurde qu'un être déterminé et la substance, s'ils sont composés d'éléments, ne soient composés ni de substance, ni de quelque être déterminé, mais d'une qualité. Car il y aurait antériorité du non-substance et de la qualité sur la substance et sur un être déterminé, ce qui est impossible. En effet, ni quant au logos, ni quant au temps, ni quant à la génération, les attributs ne peuvent être antérieurs à la substance, car ils seraient alors eux aussi séparés. Donc nous voyons bien là, encore une fois, le même argument que nous avions vu précédemment. La qualité possède une antériorité, mais une antériorité uniquement dans l'ordre de la connaissance. Elle ne possède pas une antériorité sur un être déterminé. Et c'est ce qu'Aristote souligne ici. Il est impossible et absurde qu'un être déterminé, un individu, et la substance, s'ils sont composés d'éléments, ne soient composés ni de substance ni de quelque être déterminé. Alors que l'universel comme tel, lui, implique la détermination. L'universel peut être qualité. Il peut y avoir la différence spécifique et un universel. La différence spécifique peut être un universel et donc il est une qualité. L'irréductibilité des attributs de la substance, on peut dire que c'est ça qui souligne. L'attribut est toujours quelque chose de second, même quand il s'agit de la différence de la différence. La substance, au contraire, est quelque chose de premier. Donc, vous voyez, cette troisième irréductibilité est un peu plus subtile que les autres.